Bonjour à tous. Bienvenue ici dans cet auditorium en ce dimanche matin. Merci d'être donc présent dans cette salle, toujours dans le cadre de la foire, du livre de Brive-la-Gaillarde. On est toujours ravis d'être invités, de participer évidemment à ces débats, à ces séances de dédicaces. Et donc ce matin avec nous, on a la chance, le privilège d'avoir Christophe Onodibio dans cette salle. Bonjour Christophe.
Merci, bonjour Baptiste et bonjour à toutes et à tous.
Vous en êtes à combien d'éditions de Brive, vous ?
Je suis arrivé la première fois en 2000, et comme je viens tous les ans, j'ai peut-être raté 2-3 éditions, mais donc ça fait une vingtaine presque, ouais.
Et parfois en tant que modérateur, et parfois en tant qu'auteur. Voilà, donc vous connaissez la double casquette. Et aujourd'hui, c'est moi le modérateur. Et je suis ravi, parce que vous savez que ce roman est l'un de mes coups de cœur de la rentrée.
Merci beaucoup.
Je l'ai écrit, donc je suis bien obligé d'assumer maintenant. À savoir, Trouver refuge, votre nouveau roman, Christophe Onodibio, dans cette rentrée. Donc, publié aux éditions Gallimard. On vous connaît comme romancier, ma foi, depuis quelques années déjà. Malgré votre côté toujours juvénile, malgré toutes ces années qui passent.
J'ai un peu blanchi, quoi.
Ouais, mais on dirait presque une teinture en quelque sorte.
Ah oui, alors là, c'est très pervers. Teindre en blanc. Ouais.
On vous lit très fréquemment. On vous voit à la télévision, on vous entend à la radio. On vous lit, bien sûr, dans Le Point, chaque semaine. Mais aussi en tant que romancier, vous êtes, je pense, nombreux à avoir lu Plongée, qui vous avait valu, Christophe, le Grand Prix de l'Académie française. Et j'insiste sur cet autre prix, le prix Renaud des lycéens. Puisque Trouver refuge, je le recommande vivement, vivement aux jeunes lecteurs.
Merci.
Je me permets d'insister et vous allez comprendre pourquoi. Et donc, Trouver refuge. Déjà, avant qu'on avance un petit peu dans cet ouvrage, le contenu, son histoire, ses thèmes, qu'est-ce qui signifie ce titre, Trouver refuge ?
C'est le mot refuge s'est imposé à moi quand j'ai commencé ce livre il y a 5 ans. Alors, comme on a fait une rencontre à Nancy avec Baptiste, j'ai peur. Évidemment, je ne peux pas vous raconter une autre histoire que la vérité. Mais Baptiste la connaît. En fait, ce livre, il est né par une image. C'était l'image de la main. En fait, quand j'écris, les romans, souvent, commencent par une image qui m'apparaît. Ce n'est même pas un rêve, mais une image, toujours très visuelle. Et là, c'était l'image de la main d'une petite fille dans la grande main, une main d'adulte qui pouvait être son père, dans une nature absolument intacte, profuse, très belle. L'idée d'un abri, quoi. L'idée d'un abri entre une petite fille et son père. Pourquoi ils avaient fui Tout ça restait à élucider, parce qu'en fait, quand on écrit, on procède à une enquête. C'est le plaisir que j'aime dans l'écriture, même si c'est parfois difficile, mais d'enquêter là-dessus. Et donc, c'était l'idée d'un refuge. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une menace que je devais ressentir, comme peut-être beaucoup d'entre vous, d'entre nous, dans un monde de plus en plus inquiétant, où tous les repères volent en éclats, ceux avec quoi on a grandi. Et donc l'idée de se dire, si tout vrille, où est-ce qu'on va, quoi ? Quel est le plan B, presque ? Donc c'est parti de là. Donc l'idée d'un refuge avec l'image d'un endroit où on peut être en sécurité pendant un certain temps, en attendant que la tempête se calme, quitte à reprendre après ou son ascension si on est en montagne, ou sa navigation si on est en mer. L'idée de trouver un havre, quoi, voilà. Et ensuite il restait à écrire le livre, mais c'était ça, je pense, l'inquiétude d'aujourd'hui. Et je pense que les romans, et je terminerai là-dessus, sont des véhicules parfaits pour justement nous redonner de la force, de l'énergie, l'envie de lutter aussi. Donc les romans, les livres peuvent agir comme des contrepoisons, des antidotes justement au poison de l'époque.
D'ailleurs, l'expression « trouver refuge », j'allais dire à double titre, à la fois pour vos protagonistes qui vont se déplacer et trouver un lieu de refuge, mais on utilise souvent cette expression « j'ai trouvé refuge » dans la littérature ou dans l'écriture. Ça, c'est une expression qu'on utilise volontiers.
Oui, d'ailleurs, quand le livre est sorti, moi, je ne connaissais pas, alors je ne la connais pas par cœur, mais on m'a envoyé une citation par la magie des réseaux sociaux, comme on dit, une citation de Romain Gary. Que donc je ne connaissais pas et j'aurais aimé la connaître peut-être avant, qui disait que dans les temps d'incertitude, dans les temps de troubles, un refuge pouvait être un souvenir d'enfance, une contrée où on se sent bien, ou un livre. Et c'est vrai que j'ai construit ce livre comme aussi en soi un refuge, parce que comme vous le dites, Baptiste, dans la littérature, J'ai toujours refusé l'idée que la littérature soit une façon de se couper du monde. C'est pas une façon, c'est Umberto Eco disait, si vous voulez vivre une seule vie, surtout ne lisez pas de livres. Et c'est vrai qu'il y a, c'est à la fois une façon d'être doublement dans la vie, c'est-à-dire qu'un livre pour vous faire réfléchir sur l'existence qu'on mène, le monde qu'on traverse, c'est l'image de Stendhal, hein, du roman, du miroir qu'on promène le long du chemin. Donc ça reflète notre époque et en même temps, on est aussi ailleurs. Donc on est à la fois dans le monde et hors du monde. Et c'est très très précieux ce temps. On noue aussi un autre rapport au temps. Et il y avait ça. Moi j'ai trouvé refuge dans l'écriture de ce livre. Quand j'étais inquiet, j'étais très très pressé de retrouver justement mes personnages qui sont en fuite, hein, qui sont, c'est une cavale qui essaie de se mettre à l'abri. Et dans la lumière méditerranéenne, dans les parfums, dans les sensations et dans la, la chaleur aussi des liens entre ce, ce père et cette petite fille, entre ce père et, ses, et la mère, hein, ce couple. Donc retrouver dans les liens d'amour, quelque chose de très fort que j'avais besoin de retrouver. Donc moi, ça a été mon refuge pendant, pendant ces 5 ans.
Il y a déplacement, exil en quelque sorte. Donc venons-en à la situation initiale du livre, en France. Quelle est la France que vous imaginez ? Et pourquoi les personnages se sentent-ils oppressés, pour ne pas, même, pour ne pas dire en, en danger ?
C'est un roman sur le secret, en fait, pour le faire vite. On est en France en 2027. En fait, c'est aujourd'hui. Je voulais parler de la France d'aujourd'hui. Mais comme on connaît déjà le pouvoir en place, je me suis dit, on va... Alors c'était il y a 5 ans, hein, donc maintenant on voit que presque ça a été corroboré par les faits. C'est-à-dire que c'est une France qui a glissé dans le national-populisme, dans un refus de la culture, dans une sorte de... C'est pas du tout une dictature, c'est une sorte de régime autoritaire, mais qu'on ne voit pas, assez enveloppant, basé sur le confort, sur tout va bien, on fait ça pour votre bien. Donc l'idée de construire un pays qui soit comme une forteresse... mais dans laquelle quand même toute la pensée est contrôlée au fond. Et mon personnage, Sacha, il a rêvé d'écrire un grand roman, d'écrire des livres, il ne l'a pas encore fait, il met très très haut la littérature, et en attendant, il gagne sa vie en commentant l'actualité d'un point de vue culturel sur une chaîne de télé. Et son épouse, Mina, elle est professeure, elle est dans la transmission aussi, elle est spécialiste de la Renaissance, de Byzance, de la lumière un peu dans l'obscurité. Et il y a cette petite fille, Irène, qui a 8 ans. Donc c'est ça, ma petite cellule familiale. Et un jour, alors que les deux parents se disputent un peu, comme peut-être... Enfin, s'interrogent quoi, sur l'éducation qu'ils donnent à leur petite fille en ces temps justement troublés. Et Sacha dit, est-ce qu'on ne devrait pas apprendre, au lieu d'apprendre à notre fille à lire, à s'ouvrir au monde, à la beauté, à l'art, au dialogue avec l'autre, est-ce qu'on n'est pas en train d'en faire quelqu'un de faible ? Est-ce qu'on ne devrait pas justement lui apprendre, il dit ça d'une façon un peu provocatrice, de devenir une saloperie, dit-il. Quelqu'un qui va ruser, qui va justement utiliser les autres pour survivre, quoi. Et sa femme lui dit, écoute, si tu penses ça, tu vas la faire devenir comme eux, c'est-à-dire le pouvoir en place. Et donc elle lui donne une sorte de fessée mentale, hein, un peu, comme parfois dans les couples, c'est assez salutaire. Et lui, un peu ragaillardi, le lendemain, c'est le tout début du livre, hein, je ne divulgue pas. Le lendemain, à cette phrase, sur un plateau télévisé, alors qu'il y a des ministres de celui qu'on appelle papa, qui est le président, élu. Hein,
vous voyez, d'un point de vue psychanalytique, voilà. Un père de famille et un père de la nation, papa.
Voilà, oui, c'est ça, ça m'intéressait beaucoup de jouer entre deux modèles de paternité. Une paternité qui sait tout et qui considère les citoyens comme des enfants, et un père, un vrai père, qui dans sa famille doute, et à qui on n'a pas appris à être père et qui se débrouille avec ce qu'il a. Et il a cette phrase, papa n'a pas toujours été comme ça, au moment où les ministres font l'éloge de l'action justement autoritaire de papa. Cette phrase sidère le plateau, que sait cet homme du passé de papa ? Et cette simple phrase suffit à entraîner une mécanique absolument dramatique pour cette famille, puisque les menaces s'enchaînent, comme ça arrive hein, d'ailleurs. C'est marrant, j'étais avec, je crois que je t'avais dit, enfin, je vous avais dit, je ne sais pas si on peut dire, mais on peut dire tu hein, quand même. Hein.
J'étais juste dans la convention.
J'avais dit, j'étais avec Andrei Kourkov, qui est un écrivain ukrainien, qui a écrit beaucoup avant la guerre sur l'oligarchie aussi ukrainienne, les hommes qui étaient mis en place d'ailleurs par Moscou. Et qui était menacé comme mon personnage, c'est-à-dire on vous appelle la nuit en disant mais votre fille elle est bien à son école, en disant l'adresse, les menaces sur les enfants, etc. Donc il doit fuir ce pays, et on sait qu'il a un secret, il connaît un secret sur le passé du président. Ça, on va le découvrir, vous allez le découvrir. En même temps que Mina, la femme non plus ne le sait pas qu'elle a été. Et j'aime bien cette idée aussi que je trouve très romanesque et aussi très présente dans la vie. Est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on connaît vraiment celui ou celle qu'on aime, quoi ? Quel a été le passé de celui ou celle qu'on aime ? L'histoire avant qu'on le rencontre, qu'on la rencontre. Donc c'est un livre sur le secret et c'est une traque, une cavale de cette famille qui doit, alors, comme un peu... Il y a un tableau que j'aime beaucoup qui est La fuite en Égypte de Carpaccio, vous voyez, qui au fond, quand on me dit il y a les codes du polar, ouais, il y a les codes du polar, mais dans le tableau de Carpaccio, il y a les codes du polar. C'est quoi ? C'est, bon, vous savez, c'est Joseph, Marie et Jésus qui s'en vont sur un âne menacé par le pouvoir. En fait, c'est une famille qui est menacée par un pouvoir politique et qui essaie de trouver un abri. C'est un motif vieux comme le monde, mythique, et que j'ai voulu reprendre aussi pour travailler sur cette question du plan B. Si un truc nous arrive, où est-ce qu'on va ?
Et justement, pour une partie de cette cellule, la destination va s'appeler le Mont Athos. Pourquoi le Mont Athos ? Qu'est-ce qui vous fascine ? D'ailleurs, dans le passé, il me semble que c'est un lieu que vous avez déjà exploré.
Bien sûr, je suis allé sur ce... En fait, quand j'ai commencé à écrire, j'étais fasciné par ce qu'on appelait les zones grises, les zones... On ne sait pas très bien ce qui s'y passe. Donc, il y avait la Birmanie, le Triangle d'Or, où je suis allé beaucoup à cause de Kessel au départ, aller dans ces mines de rubis un peu oubliées. J'en ai rapporté un livre. À chaque fois, j'aime bien aller voir dans les endroits, même si je fais de la fiction, c'est toujours adossé au réel. Pour moi, parler de littérature du réel, par exemple, n'a pas tellement de sens parce que on parle, on n'est pas, enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais même d'ailleurs, même la SF est une façon de parler du réel. Et en fait, ce Mont Athos, on m'en avait parlé comme un lieu coupé du monde, au cœur de notre monde, au cœur de l'Europe, où les règles de vie n'avaient pas changé depuis Byzance. On me parlait d'un pays absolu, enfin d'un pays, d'une contrée, c'est une presqu'île de 40 km sur 10, coupée du monde, où dans une nature absolument formidable, avec uniquement 20 monastères fortifiés, magnifiques, qui n'avaient pas bougé depuis l'an 1000. Et où les hommes ou des hommes avaient choisi de vivre à rebours des lois et de notre mode de vie. Donc je voulais aller voir, pas du tout pour des raisons religieuses, mais peut-être aussi attiré aussi par une certaine forme de spiritualité. Je suis allé dans ce lieu il y a en 2000, à peu près, oui, en 2000, avant 2000, entre 99 et 2000, je suis allé deux fois. Et j'ai eu envie d'écrire un livre qui s'appelait Interdit à toute femme et à toute femelle, qui est en fait la règle de ce lieu interdit à toute femme, à toute femelle, et en fait, et aux imberbes, c'est-à-dire aux enfants. Et j'en ai fait un premier livre, et puis j'y suis retourné beaucoup dans ce lieu que j'ai de plus en plus approfondi. J'y ai emmené mon fils aussi quand il avait 10 ans, alors que c'est interdit aux enfants, mais j'ai réussi à l'emmener là-bas. Pareil, je voulais qu'il se frotte à l'idée d'un monde où on choisit de vivre autrement. Et puis aussi qu'il aille au contact des histoires qui ont façonné l'Europe. Au fond, je suis passionné de mythologie. Le christianisme est pour moi une autre forme de mythologie, sans que ça soit péjoratif. Mais c'est-à-dire, ce sont des histoires. Moi, je crois en la force des histoires qui façonnent, qui ont façonné notre histoire. Et je voulais qu'il aille au contact de ça. Et c'est aussi le but de ce livre, c'est-à-dire initier les lectrices, les lecteurs à cet endroit qui est plein de légendes, qui est plein d'histoires, qui sont au fond qui ont forgé aussi notre civilisation, comme d'autres influences, mais aussi celle-là. Et donc je voulais, et ça rejoint le début de notre discussion, cette image de cette petite main d'enfant dans la main d'un adulte, cette nature. Au fond, je me suis dit, en fait, il faut que je revienne sur le Mont Athos. Donc j'y suis revenu par la fiction.
Car le vrai sujet, vous avez utilisé à plusieurs reprises le terme transmission. C'est ça, un des thèmes principaux de ce roman, la transmission de la culture, des cultures. Et en même temps, à travers cette intrigue, c'est pour vous un prétexte pour nous raconter des choses, nous rappeler des choses. Et on sent ce plaisir que vous avez à être dans la position du conteur, presque du conteur antique.
Merci Baptiste. Oui, c'est vrai que j'aime le roman. J'aime cette idée de raconter des histoires. Je pense qu'on a besoin, Salman Rushdie, dont tu sais que je l'aime beaucoup, je crois que tu l'aimes beaucoup toi-même. Enfin, voilà. C'est-à-dire que quand on dit un conteur, en fait, on n'est pas on n'est pas dans le monde de l'enfance. Souvenez-vous, Les Mille et Une Nuits, Scheherazade raconte, trouve le prétexte de l'histoire pour se maintenir en vie face à un tyran, un despote, qui, charmé par cette histoire, par la pulsion de connaissance, hein, de connaître la suite, finalement, laisse en vie la conteuse pour savoir la suite. Là, je regardais ce matin les informations, comme tout le monde, même en politique, on raconte des histoires. Pour être élu, il faut raconter une histoire. Je voyais Donald Trump qui réapparaît avec sa casquette « Make America Great Again ». C'est à nouveau, sa phrase, c'est de dire « il va y avoir un raz-de-marée de gens qui aiment vraiment leur pays et qui vont redonner justement sa splendeur à cette Amérique, etc. » C'est un conte. C'est raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. Et j'ai été formé, enfant, par mes parents, mes grands-parents, un certain nombre de professeurs qui m'ont raconté des histoires, mais comme nous tous, hein, des histoires qui nous rendent aussi plus forts, qui nous aident à comprendre le monde. Et c'est l'idée de la transmission. Et la littérature, et pourquoi je pense, c'est une expression encore de Salman Rushdie, cet art ancien qu'on appelle littérature. C'est un art très ancien, mais qui n'est jamais démodé. Quand on voit aussi, même jusqu'à Harry Potter, et tout ça, c'est raconter des histoires. Quand vous voyez les gamins devant Harry Potter, devant ce qu'ils lisent, ce sont des motifs très anciens, toujours. Comme je parlais de ce tableau de Carpaccio, de Trac, les récits antiques. Au fond, on est toujours même Jason Bourne. C'est ça, c'est une cavale, une Trac, un problème d'identité. Notre monde, en fait, est fait d'histoire. Et le boulot des écrivains, c'est de raconter des meilleures histoires que celles des bad guys, comme dit Salman Rushdie. C'est-à-dire de raconter des histoires qui vont nous permettre de résister, justement, d'être moins manipulables aussi. Et ce n'est pas contraire à l'idée de plaisir, en fait. Et c'est pour ça qu'on aime lire aussi, c'est qu'on apprend des choses, on résiste, mais il y a ce plaisir indépassable de vouloir tourner la page pour savoir ce qui va se passer. La différence que je ferais, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, Baptiste, mais c'est, est-ce que c'est un prétexte ou est-ce que c'est le fond de l'affaire ? Je pense que c'est le fond de l'affaire de raconter une histoire. Et que dans cette histoire, au fond, c'est le véhicule. On monte à bord de quelque chose qui vous emmène dans un monde, dans une réalité qui est notre monde et qui vous fait réfléchir aussi à ce qu'est notre monde. Et ce plaisir, la littérature, sa meilleure valeur, quoi. C'est-à-dire que tant qu'il y a le comment on dit, là où il y a le plaisir, il n'y a pas de
gêne.
Là où il n'y a pas de gêne, c'est ça. C'est quoi la vraie.
Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de
plaisir. Il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, voilà. C'est ça. Voilà. Et bien là où il y a du plaisir, il n'y a pas de gêne.
Je vais rebondir sur deux mots.
Terrible, vous venez de dire. Je ne sais plus si on peut dire ça aujourd'hui.
Il y a deux mots que vous venez de prononcer et que je trouve intéressant, sur lesquels je trouve qu'il est intéressant de rebondir. Le mot démodé et le mot plaisir. Pourquoi je veux insister sur ces deux mots ? C'est que j'ai l'impression que dans ce roman, vous avez envie de renouer avec un roman qui n'est pas un type de roman, de fiction qui n'est pas forcément à la mode. Il y a un côté roman feuilleton, disons, revenir à une certaine littérature du 19e, Dumas, Jules Verne, etc., etc. Une littérature, là encore une fois, de générosité et qui donne, c'est là où je veux en venir, beaucoup de plaisir au lecteur. Est-ce que vous assumez un petit peu de renouer avec cette tradition qui est, j'allais dire, très, très française et qui a été reprise depuis notamment dans le domaine anglo-saxon ?
Oui, alors, Jules Verne moins parce qu'on est dans l'anticipation, plutôt.
Des exemples, enfin.
Oui, bien sûr, oui. Mais l'idée de donner à lire des livres... Ce qui est très important pour moi, des livres dont on veuille tourner les pages, effectivement, où il y ait des... où il se passe des choses, en fait. C'est ça, mais au fond, c'est quand même de raconter aussi notre monde. C'est aussi raconter, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on est en 2027, mais ça raconte... en fait, j'ai mis 2027 à cause de... Il me fallait un autre président. Donc c'était forcément 2027, mais en fait... S'il y a une dissolution, ça sera peut-être avant 2027. C'est l'idée d'assumer une part de plaisir, oui, mais avec l'idée de... En fait, plus, je dirais plus, sans me comparer, hein, bien sûr, mais l'idée de roman, s'il y a un type de roman du 19e auquel je pourrais me référer, mais qui a été repris aussi après par Tom Wolfe, par les Américains. C'est vrai qu'il adore d'ailleurs ce roman français 19e. C'est plus Balzac, sans me comparer encore une fois, mais c'est-à-dire que Les Illusions perdues, qui parle de la presse, au fond, d'ailleurs, ça explique en partie aussi le succès du film de Giannoli. C'est-à-dire que, en fait, on parle de la presse au 19e, mais on parle déjà des fake news, on parle déjà du monde d'aujourd'hui, de la manipulation, justement, de l'information, des sujets aussi d'amour, d'ambition. Au fond, c'est vieux comme le monde. Moi, j'ai été bercé, c'est vrai, par Dumas. Mais en fait, ce que j'aime chez Dumas, c'est les ressorts très profonds chez Dumas ou chez Balzac. C'est-à-dire qu'on revient à en fait, traiter des choses qui sont essentielles, qui n'ont pas bougé, c'est-à-dire les rapports de pouvoir, les rapports d'amitié, les rapports d'ascension sociale, les rapports de chute, les rapports de trahison. C'est tout ça. C'est-à-dire qu'au fond, c'est quand même refléter la vie. Jules Verne, en fait, curieusement, je n'ai jamais aimé enfant. J'en ai lu beaucoup, mais je trouvais ça, l'aspect scientifique, par exemple, Voyage au centre de la Terre, je séchais un peu sur les pages de science. Mais ce que j'aime, un de ceux que j'aime, qui est 20 000 lieues sous les mers, en fait, ce que j'aime dans 20 000 lieues sous les mers, c'est à la fois ce lieu, hein, évidemment, l'océan, mais aussi l'idée de quelqu'un qui soit dans la détestation des hommes pour ce qu'ils ont fait aux autres hommes, et déjà la nature, d'ailleurs. Ça, c'est très, au fond, c'est très très contemporain, et c'est pour ça que c'est très. D'ailleurs, je note que dans le nouveau film de la série, de la saga Black Panther, hein, en fait, il y a un méchant qui s'appelle Namor qui va arriver, qui fait directement référence au Capitaine Nemo. C'est-à-dire que ce sont des archétypes très très puissants. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de parler du monde d'aujourd'hui et que les romans soient sur un double effet, nous emmener dans une histoire, mais pour nous faire réfléchir, finalement un peu presque en contrebande, quoi, au monde qu'on est en train de traverser. Parce que je suis inquiet, quoi. Je suis vraiment inquiet, notamment de. Je suis très inquiet vis-à-vis des écrans que j'utilise, hein, comme tout le monde, mais qui de plus en plus font écran au monde. Cette espèce de renfermement dans différentes communautés qui ne vont plus dialoguer, qui ne vont plus échanger. Et donc je pense que la littérature là-dessus est encore le dernier moyen pour ne pas faire écran au monde, justement pour le refléter et nous faire réfléchir à tout ça. Mais il faut une histoire. Pourquoi il faut une histoire ? Parce qu'il faut des personnages. Et que ça, c'est la grande... C'est le grand pacte littéraire que j'adore, c'est-à-dire qu'on vous demande aussi, quand vous prenez un livre, une humilité, c'est que vous allez devoir un petit peu vous oublier pour faire connaissance à des personnages qui ne sont pas vous, qui vont vous faire penser à vous. Parfois, quand on lit un livre, on se dit « mais l'auteur s'adresse à moi, il me rappelle des choses que j'ai vécues, que j'ai traversées ». Mais surtout, on accepte de suivre des gens qu'on ne connaît pas, de faire une rencontre, en fait, et de les suivre dans un certain endroit, pendant un certain temps de lecture, mais ces gens qui sont des gens de chair, d'esprit, de colère, d'enthousiasme, d'amour, de dégoût, de vengeance, d'amitié, de transmission, qui ont des enfants ou pas, qui ont Donc on accepte ça, et ça je trouve ça très très fort, c'est-à-dire vous allez entrer dans un monde que vous n'avez pas choisi, qu'on vous propose, et ça c'est le contraire du monde numérique où on vous dit c'est vous qui racontez l'histoire. C'est vous qui faites un selfie, qui allez proposer votre histoire, vos images, vos photos, mais qui est très enfermant. On le voit, les jeunes, finalement, ne vont pas super bien avec les réseaux sociaux parce qu'ils s'enferment dans une sorte de projeter qui on est face au monde. Et puis après, on se dit, ah ben non, il y a moins de likes qu'hier. Alors qu'un roman vous propose d'entrer dans un monde, de suivre. Après, on n'est pas obligé. Moi, je suis toujours... on n'a pas à se forcer à lire... Mais on propose quelque chose qui vous sort un peu de vous. Et ça, je trouve ça... Moi, c'est ce que j'ai aimé quand j'étais enfant. Je suis adulte aussi. C'est-à-dire d'entrer dans un monde où vous n'en connaissez pas les règles. Et puis, vous allez faire un pari, quoi. C'est ça que j'aime. Donc, pour répondre à votre question, oui au plaisir de tourner la page. Mais oui aussi à parler du monde qui nous entoure. Mine de rien, j'allais dire.
Mais la littérature peut être aussi, et est aussi une affaire d'oralité. À ce titre, Christophe, Est-ce que vous accepteriez de nous lire un petit extrait?
Mais bien sûr.
De Trouver Refuge. Alors, je sais pas, en nous que... le contextualisant.
Tout bien même, sûr. Alors, cet écran est en train de me dire où est le conservatoire, etc., alors qu'on y est. Donc, je vais lui dire tout de suite que c'est bon et on va l'éteindre. Voilà. Oui, alors, je... On a... Parce qu'il est déjà... Il est déjà tard, c'est ça? Ah oui.
Oui, quand même. Pour que
ah, c'est
on
fou.
Puisse.
Mais bien sûr, pour échanger.
Évidemment.
Je vais vous lire un passage... où le père et, la, et cette petite fille se retrouvent justement dans cette nature. C'est leur première, j'allais dire, incursion dans ce mont Athos, hein, qui est un endroit à la beauté renversante, naturelle, pleine de forêts, et où finalement cet homme qui a toujours rêvé de passer un peu plus de temps avec sa fille est un peu contraint par les circonstances. Parce qu'en fait, chaque chapitre alterne entre ce père et cette petite fille qui se retrouvent là-bas, et Mina, sa femme, qui essaie, elle, d'enrayer la catastrophe qui est en cours. Donc on suit l'un puis l'autre. Et là, c'est un passage sur le père et la fille. Alors, il faut que je le retrouve. Vous pouvez me poser une autre question en attendant, Baptiste.
Non, ce que je peux dire aussi, c'est que le livre aussi fonctionne. Vous avez utilisé le terme polar. J'allais presque dire reprendre des techniques de thriller en alternant justement les deux trames pour nous faire tenir en haleine. Et ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Enfin, voilà. Et donc, voilà. Ayez ça aussi en tête. Voilà. À la lecture, lorsque Christophe va nous lire ce petit extrait.
Oui, il y a ça, parce qu'évidemment, le danger menace, hein, toujours, même là-bas, finalement, le danger est présent. Et puis, il y a cette idée du secret. Qu'a bien pu faire cet homme pour inquiéter ainsi le pouvoir, quoi. Et qu'a bien pu faire le président.
Vous allez voir, vous allez cogiter, vous allez dire, ah, ça peut être ça, ça peut être ça.
Voilà. En plus, j'ai un peu perdu ma voix, pas parce que je suis allé au cardinal, parce que je suis, moi, resté tranquillement. J'avais besoin de me reposer. Voilà, alors Sacha et Irène. Voilà, ils arrivent. Non, c'est drôle. Là, je suis avec Mina.
Qu'est-ce qu'on va faire?
T'as pas une autre question?
Oh non, non, j'insiste encore aussi sur... parce que j'aime bien aussi présenter le roman comme un roman de genre. Insistons aussi sur cette notion d'aventure. Et ça aussi, c'est un genre qu'on perd un petit peu aujourd'hui, ou qu'on retrouve dans la non-fiction. Par exemple, avec quelqu'un comme Sylvain Tesson en littérature française, un auteur que vous aimez bien, je crois.
Ce sont
je
des
crois
aventures. Bah, Sylvain, c'est un copain. Ouais, ouais.
Donc voilà, on renoue avec tout ce bain qui n'est pas forcément le plus à la mode aujourd'hui. Et moi, j'aime bien, j'ai tendance à dire, il faut qu'il perdure. Voilà. Cela s'appelle. Si il y a que ça, je pouvais prendre le piano.
Ça serait pas mal. Hein.
C'est pas moi l'invité, donc.
Je suis désolé,
voilà.
je c'est pas du tout un gimmick. Voilà pour. Elle éteint l'appareil. On y est, hein, on y est. On y est là, parce qu'en fait, ils ont.
Au moins, tu connais ton livre, c'est déjà bien.
Oui, mais en fait, je connais, mais là, je ne sais pas ce qui se passe. Sinon, je vous lis un autre passage. Hein.
Sinon, je voulais le passage juste avant d'embarquer, mais je sais pas. Vous allez croire que je joue.
Non, mais c'est fou ça. Voilà, on enfile de. C'est dingue. C'est dingue. Faut comprendre, c'est novembre.
Elle est longue, la rentrée. Elle est longue. Oh oui.
Et
il y a l'actualité aussi, Christophe.
J'y suis presque, mais c'est leur première. Voilà, ça, où est-ce qu'il vient de faire venir Mina ? Ça y est. Voilà, ça y est, j'y suis.
J'y suis. C'est page 178.
Alors, je vois les livres,
c'est super. C'est deux pages, et puis si vous avez envie, je vous lirai pour vous montrer les deux. Mais en fait, qui ne l'a pas lu ? Ah oui. Et si vous voulez, je vous lirai le pour vous montrer justement, puisqu'on parlait des codes un peu du thriller, parce que mais c'est pareil encore une fois, c'est vrai qu'on a perdu ces codes-là, c'est-à-dire qu'on les a dans le polar, mais en fait, alors les Américains savent très bien le faire, justement garder, disons le souci de la description des personnages, c'est-à-dire de pas être dans le polar tout en étant dans les codes, qu'est-ce qui va se passer après. Ça, on les a, et c'est vrai que peut-être en France on les perd un peu, et c'est dommage. Le père et la fille s'enfoncent dans la forêt. Une cathédrale végétale dont les piliers sont des noisetiers, des châtaigniers, des oliviers. Entre leurs branches court une vigne sauvage qui les unit les uns aux autres. Les parfums bientôt enveloppent l'homme et l'enfant, ceux des buissons de myrte, enivrant comme de l'alcool, ceux de la terre chauffée par le soleil, ceux de la mousse encore étourdie de rosée à l'ombre des arbres. Au-dessus de leur tête, les branches tamisent la lumière et la réduisent en une poussière dorée. Dorées aussi sont les taches jaunes que font les citrons dans les feuilles vertes. C'est d'une beauté puissante et toute simple, une synthèse de tout ce que la nature recèle en ses latitudes, quand l'homme la laisse tranquille. Et il n'y a rien à dire, rien à faire, qu'être attentif à la vie mystérieuse qui se déploie, indifférente à eux, les chants des oiseaux invisibles, les mélodies hypnotiques des cigales, le bourdonnement des abeilles qui butinent tant qu'elles peuvent. Ils marchent. Parfois, le sentier quitte la forêt et ils embrassent alors du regard la totalité du paysage, depuis les fougères poussant à leurs pieds jusqu'aux cyprès qui s'élancent vers le ciel comme des torches. Sacha se sent minuscule et heureux d'être minuscule. Il tient sa fille par la main et ça lui suffit. Sa grande main, contenant sa petite main dans ce jardin considérable où ils ont trouvé refuge, protégé par son labyrinthe naturel, oublié des cartes et des GPS. Il essaie d'imaginer ce qui peut traverser la tête de sa fille, confronté à ce monde aussi beau qu'étrange, comme sorti des pages d'un livre de légende. « Et quand tu es venu, tu l'as vu la Vierge ?» Il rit. « Non, mais on la verra peut-être ensemble. Et des anges. Tu en as vu des anges ?» Lui n'a pas besoin d'anges. Il a déjà le sien et il a 7 ans. Parce que c'est un livre aussi, évidemment, cet homme. Alors, il y a ce côté thriller, mais cet homme et cette petite fille... Le roman se déroule sur 7 jours. Cet homme ne sait pas combien de temps il a encore avec sa fille. Donc cette transmission prend un côté thriller. Combien de temps il va avoir pour dire à sa fille tout ce qu'il a envie de lui dire, ce qu'il a envie de lui apprendre, mais aussi pour être appris, j'allais dire, par sa fille. Parce que ce qu'il y a de formidable avec les enfants, vous le savez, ou les petits-enfants, c'est qu'ils nous apprennent énormément de choses. Ils nous mettent en question par leur espièglerie, leur curiosité. Ça nous réveille aussi. Donc il y avait cette dimension-là. Et c'est drôle parce qu'en disant « Tu l'as vu, la Vierge ?» Je regardais hier parce que je suis rentré dans ma chambre d'hôtel et j'ai allumé la télévision. Je suis tombé sur Gad Elmaleh qui nous parle de la Vierge en ce moment. C'est assez étonnant et ça rejoint aussi cette idée-là. C'est-à-dire qu'en expliquant que c'est d'abord un souci presque de curiosité. Lui est dans une démarche de foi, mais... Moi, c'est la démarche de ce qu'il y a au-delà de l'humain. En fait, je suis obsédé en ce moment par qu'est-ce qui nous aide à rester humain dans un monde qui devient de plus en plus inhumain, violent, comment on maintient cette petite flamme d'humanité. Et la religion, pour ceux qui y croient, est un véhicule aussi pour ça. Mais d'abord, c'est une idée de curiosité pour l'autre et pour quelque chose d'au-delà de l'humain, qui nous rend en fait humain. Parce que quand on parle, quand on a le souci de ce qu'il y a au-delà de nous-mêmes, c'est là qu'on reste aussi dans les limites de l'homme, c'est-à-dire de ne pas se dire on va devenir maître et possesseur de la nature. Et c'est drôle, je pensais à ça parce que la Vierge est en train de devenir très tendance en ce moment. Mais parce que le mot Athos, c'est une petite précision historique, au fond, je disais que c'est un monde d'hommes, mais c'est un monde d'hommes qui est obsédé par une femme qui est la Vierge. C'est-à-dire qu'en fait, ces hommes... Il n'y a pas de femmes, mais passent leur temps à prier, à chanter dans les églises, dans la lumière des cierges, des mosaïques pleines d'or, des peintures sur les murs. Passent leur temps à chanter les louanges d'une femme qu'ils appellent l'épouse inépousée. Donc, et on appelle le mont Athos le jardin de la mère de Dieu. Et on est sous la protection, ça va être très important pour le livre, c'est que cette petite fille qui est une... Il se dit, est-ce que je suis en train de mentir ? Parce que finalement, les femmes sont interdites. Donc les petites filles aussi. C'est une femme en germe.
C'est le cœur du roman. Voilà. Et le travestissement, et le mensonge.
Ben oui, mais est-ce que je suis en train de mentir à ces hommes ? En fait, il se dit non, parce que depuis l'an 1000, ce lieu a été un refuge pour les gens qui cherchaient, comme une église, comme le droit d'asile dans une église. Dès qu'on est dans l'église, on est protégé. Et personne ne doit pouvoir vous toucher. Il y a ce côté-là, quoi. Trouver un refuge aussi. Et j'aimais cette idée de... Parce que la Vierge, sur le mont Athos, c'est toujours avec son enfant... Donc cette idée aussi de la figure maternelle qui est là, alors que cette petite fille n'a pas sa mère. Et cet homme n'a pas cette femme qu'il aime. Donc il y a cette idée aussi de la présence féminine. Donc c'est drôle. Non, je pensais à ça parce que quand on sort un livre et que vous apercevez, bon, déjà les gens vous disent quand ils vous voient qu'ils ont retrouvé telle ou telle chose dans le livre, mais vous, vous apercevez que vous rentrez aussi, alors que vous pensiez écrire pour vous, que vous entrez en résonance aussi avec l'époque. Et je pense que quand Baptiste est à la gentillesse de, et tu me l'as dit déjà, que dire aussi pour les jeunes gens, les jeunes filles.
Ça, je crois vraiment que c'est un livre qui peut toucher le jeune public.
Parce que l'idée de transmission, d'à quoi ça sert de vivre, on est là pourquoi. Et l'idée du refuge en ce moment, quand vous voyez des populations qui partent. Et en Ukraine, moi j'ai rendu mon manuscrit la veille de l'invasion russe. Et vous vous dites, et là vous voyez des familles qui trouvent aussi refuge. Et cette idée aussi qu'on a tous en nous, là c'est la guerre en Ukraine, mais l'idée du besoin pour résister au monde d'avoir un refuge aussi qui est parfois un refuge intérieur et qui passe aussi par la connaissance de ce qui est essentiel pour nous. Et ça va être l'enjeu aujourd'hui dans un monde de plus en plus précaire. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Et c'est vrai que j'étais au Liban la semaine dernière et j'ai rencontré beaucoup de lycéens et de collégiens. Je suis allé dans des écoles. Alors eux, en plus, ils se prennent toutes les calamités du monde. Mais j'ai vu des petites filles qui voulaient écrire des livres. Et j'espère que, comme je l'ai eu moi quand j'étais enfant, j'ai reçu la visite de deux personnes qu'on comptait énormément, Jacqueline de Romilly et Jacques Lacarrière. C'est drôle. J'ai jamais oublié. Je voulais écrire. Et j'ose espérer que je peux avoir ce rôle-là aussi auprès de ces... Et il y a une gamine qui est venue me voir à la fin, qui m'avait posé des questions sur le fait qu'elle voulait écrire. Je pense que écrire dans un monde, quand vous avez la guerre à vos portes, quand vous avez l'explosion de la ville où vous êtes. Bon, mais ils avaient quand même, c'était plutôt des filles d'ailleurs qui posaient des questions et qui avaient les yeux qui brillaient et sur l'importance d'écrire des histoires, et qui est venue me voir à la fin et qui m'a dit, monsieur, je peux vous faire un câlin. Je peux te faire un câlin. Et c'était cette petite fille comme ça qui était là, qui venait de me parler d'écriture, etc. Qui cherche, enfin c'était bouleversant, hein, j'avais envie vraiment de pleurer. Et c'est aussi ça, je vous dis ça, je l'ai dit vraiment à mes proches, mais là on est entre nous, je sais que je ne le dirai pas publiquement, mais y avait ce côté-là, c'est des gens qui n'ont pas les... Un livre coûte très cher au Liban, donc là je vais leur faire envoyer des livres de poche. Ils ont travaillé sur mes livres, sur les quatrièmes de couverture, sur des extraits qu'ils ont trouvés, ils ont préparé, ils ont dessiné des couvertures sur Trouver Refuge, qui évidemment... incluer aussi leur part de personnalité libanaise, puisque l'explosion, etc. Et le besoin aussi de trouver aussi dans les histoires, non seulement un refuge, mais aussi la force d'être plus fort et de continuer. Pour cette petite fille, il y en avait d'autres, il y avait des petits garçons qui étaient là aussi. L'idée d'avoir envie d'écrire, de lire. Donc c'était très émouvant, mais ça m'a donné aussi beaucoup de force. Quoi. Voilà.
Voilà, donc important, je le répète, mot-clé, tant pis si je radote, transmission, c'est absolument essentiel. Et c'est l'une des clés essentielles de ton roman, Christophe. C'est la convention, faut que l'oublie. Allez, voilà, c'est ça. Alors, comme je vois que le temps avance, il nous reste encore quelques minutes. Vous êtes nombreux, autant que vous participiez à notre petit débat et que vous posiez toutes les questions que vous souhaitez à notre invité. Monsieur, hop, on a un micro. Il arrive dans quelques secondes. Voilà, hop, le voilà, micro. Il arrive. Nous vous écoutons, monsieur.
J'ai lu votre livre cet été avec passion. En plus, on était au fin fond d'une petite île grecque. Alors, je ne sais pas si ça a ajouté.
Le décor qui convient.
Il y a une chose dont vous n'avez pas parlé, et moi j'ai été passionné par ça dans votre livre, c'est tout le rapport à la mythologie grecque et à la religion. Parce que ça parcourt votre livre quand même.
C'est toute la connaissance et l'histoire et la mythologie.
Voilà, vous faites preuve, enfin, pour moi, d'une érudition très forte sur la mythologie et ça m'a vraiment intéressé.
Oui, mais alors, j'en parle pas parce que c'est difficile d'en parler pour moi parce que je sais pas comment en parler. Moi, j'ai été nourri par cette mythologie grecque en étant un petit garçon du Havre par une prof de grec, en fait. Personne n'avait fait de grec dans ma famille. J'avais un grand-père qui travaillait sur les chantiers navals, qui me racontait plein d'histoires, mais plutôt sur le monde maritime. Il connaissait tout ça. Il construisait des bateaux. sur lesquels ils montraient jamais, qu'ils voyaient partir. Le Havre et les, voilà, même le France était très important au Havre et tout ça. Mais la mythologie grecque, c'était pas du tout dans la famille. J'ai eu une professeure qui bénévolement nous donnait des cours de grec pour les volontaires. C'était le samedi de 12h à 13h, je me souviens, et ça commençait par un chocolat chaud dans la salle des profs désertée. Et donc, on entrait dans le sein des saints, à la machine à café, le chocolat chaud, on était une petite dizaine. Et là, le ciel brumeux chargé de Normandie s'ouvrait et faisait entrer vraiment toute la lumière de la Méditerranée, des îles grecques, des princesses, des dieux, des déesses. Et encore une fois, d'un monde qui ressemblait au nôtre tout en étant différent. C'est-à-dire que le monde de la mythologie grecque, les dieux sont très proches des humains. D'ailleurs, ils descendent parfois, ils tombent amoureux de femmes ou d'hommes d'ailleurs humains. Ils les raptent, ils leur font des... Ils se comportent assez mal parfois. Mais aussi l'idée que ça parlait du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, dans la mythologie grecque, même toute l'histoire de la guerre de Troie, on vous parle de quoi ? De guerre, de ce que c'est que d'un père, le personnage d'Hector qui est très important pour moi, c'est-à-dire ce père de famille qui sait, qui va au combat pour défendre sa patrie, qui dit adieu à sa femme et à son petit enfant. J'en parlais dans Plongée, il y a une scène dans Plongée là-dessus. C'est l'idée au fait que dans tous ces mythes, il y a des choses qui parlent de la famille, de la politique, du pouvoir, de la jalousie, de la guerre, de la détestation, du rapport aux parents. Au fond, ces choses éternelles qui nous fondent encore aujourd'hui, ils n'ont pas, c'est pas du tout le côté c'était mieux avant, c'est un monde qui est différent de nous, mais qui a réfléchi sur ces choses qui sont éternelles dans la vie d'un être humain, dans la vie des sociétés. Et en fait, je voulais montrer cette petite fille qui va sur le mont Athos, elle part avec un livre de mythologie, parce qu'elle adore, parce que le père lui raconte ses mythes, et elle va être confrontée à une autre forme, à un autre recueil d'histoires, quoi, qui sont les histoires plutôt du christianisme, du premier christianisme, mais qui sont en fait très très liés à la mythologie. Je me suis aperçu en lisant ce livre que l'histoire de Saint Christophe, évidemment, je suis obligé de m'intéresser à Saint Christophe, est directement branchée sur la mythologie. C'est-à-dire que l'histoire de cet homme, de ce colosse qui porte ce petit enfant, qui devient de plus en plus lourd à mesure qu'il traverse le fleuve, qui manque de se noyer, mais qui finalement lutte pour déposer cet enfant sur la berge, et cet enfant qui lui parle comme un adulte parle et qui lui dit « je suis lourd parce que non seulement j'ai créé ce monde, mais je porte moi aussi ce monde en moi. Bah, en fait, ça vient directement dans l'histoire de Jason et les Argonautes. C'est une vieille femme que Jason fait traverser, qui fait traverser le fleuve. Et cette vieille femme, c'est Héra, la femme de Zeus, et qui devient de plus en plus lourde. C'est pour montrer aussi, et ça c'est une idée qui me passionne, qui est dans ma recherche peut-être un peu mystique aussi, au sens de s'intéresser à la spiritualité et au temps long. C'est-à-dire que je pense que les histoires viennent d'un même endroit. Ce même endroit, c'est le cœur des hommes et des femmes. Et qu'au fond, elles prennent différents visages, mais l'idée est la même. Et ça rejoint cette croyance profonde que j'ai en fait de raconter des histoires. En fait, même vous avez peut-être lu Sapiens, le livre de...
Yuval Noah Harari.
Voilà, Harari, ce que je dis, j'ai toujours tendance à l'appeler Hariri, qui était le chef qui est mort dans une explosion à Beyrouth. Voilà, je confonds. Mais Sapiens, dans Sapiens, Harari oui. Dit que si l'homme en fait, a survécu comme espèce sur les autres espèces, c'est que l'homme est la seule espèce à raconter des histoires. C'est-à-dire que c'est pas seulement raconter des histoires, c'est raconter des histoires aussi pour se tenir chaud et pour faire corps autour du feu dans les grottes. Et les récits, en fait, nous rendent vivants. Vraiment, ça, j'y crois vraiment profondément. D'où l'importance de transmettre des histoires, et même que ça soit la mythologie, mais aussi les livres d'aujourd'hui qui parlent de notre monde, les transmettre à vos enfants, à vos amis. Quand on aime un livre, on le partage. Et pourquoi je vous disais ça ? J'ai oublié ma conclusion, mais l'idée du... Voilà, je parle pas de la mythologie parce que je voudrais pas avoir l'air de donner à penser que c'est un livre. Je me méfie beaucoup en fait aujourd'hui de la méfiance vis-à-vis de la culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que vous parlez de culture, les gens pensent que vous parlez de très haut, que vous appartenez à une élite, que ça va être un étalage de science. Moi, j'ai été nourri, biberonné par des gens qui n'étaient pas de l'élite, mais qui pensaient justement, qui me racontaient des histoires, des profs qui ont changé ma vie. Et j'ai toujours pensé qu'on a besoin aussi parfois d'être transmis, qu'on nous transmette des choses. Et donc, je ne veux pas laisser à penser, en parlant de mythologie, que c'est un livre qui est déconnecté justement de notre époque. Donc, je me suis servi de cette petite fille qui est ce livre de mythologie et qui est là avec son père. Et à un moment, je voulais, ça a été alors... Il y a quelqu'un qui, dans cette salle, qui connaît très bien les coulisses d'ailleurs de ce texte, mais il y a eu un passage très très difficile à écrire dans ce livre. Je voulais absolument, sans casser l'intrigue, je voulais raconter un père qui raconte à sa petite fille, bah, c'est l'histoire de Saint-Christophe, parce qu'aussi j'aime beaucoup le livre de Tournier, Le Roi des Aulnes. Mais différemment, mais Tournier s'arrête à une partie de l'histoire de Saint-Christophe. Je voulais raconter la suite, qui est absolument passionnante. Et je voulais qu'on ait dans le livre l'histoire, sans que ça soit, pour le dire crûment, chiant. Et je voulais montrer, parce que ça me faisait plaisir, l'histoire d'un père, montrer ce père en train de raconter une histoire et que le lecteur ou la lectrice entende l'histoire en même temps qu'eux. Et c'était très difficile à faire. Parce que je voulais pas rompre aussi le rythme qui est très tendu hein, de ce livre. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Vous voyez qu'elle est, elle ouvre plein de portes, et c'est pour ça que j'en parle pas spontanément.
Autre question, monsieur, au fond. Alors. On va y arriver, il n'y a pas de problème. Nous vous écoutons, monsieur.
Oui, merci. Un peu par profil, je suis plutôt dans ceux qui pensent que la réalité dépasse toujours la fiction. Quand vous écrivez comme ça un livre qui est dans l'actualité, voire un peu post-actualité, est-ce qu'il y a un moment où vous dites « Ah ben non, ça ne va pas être possible ».
En fait, ce livre aussi est basé sur à peu près 10 ans de journalisme politique. Je voulais qu'il y ait une dimension politique dans le livre. Je fais le pari dans ce livre romanesque, j'espère pas être prophétique, que la France glisse dans le national-populisme. Quand j'écris ça, y a déjà des données qui me permettent d'écrire ça. C'est-à-dire qu'on voit en Europe, alors pas encore beaucoup, mais il y a Orban, mais on voit dans le monde entier l'idée de l'homme fort qui revient. Trump, déjà, hein, c'était ça, l'homme fort, le côté très misogyne aussi du personnage. Poutine, avec les images déjà torse nu dans la toundra, chassant l'ours, cette image du pouvoir fort. Ça. Et déjà, les attaques. Moi, j'étais en Italie quand j'ai commencé ce livre, je l'ai commencé avec un souvenir. J'étais allé en Italie pour la traduction d'un livre et j'assistais sur les débats télévisés à quelque chose qui est depuis arrivé chez nous. D'ailleurs, on l'a vu dans le débat Darmanin-Bardella. C'est drôle, le livre était terminé depuis longtemps. C'est-à-dire l'idée dans les débats, vous n'êtes pas mon professeur, je ne suis pas votre élève. C'est-à-dire la mise en question tout de suite, c'est-à-dire que professeur devenait une insulte. Bon, donc tout ça, c'est encore une fois, ça rejoint la question de Baptiste, c'est adossé au réel. C'est des choses que j'ai vues, pas forcément en France, mais que j'ai vues à l'œuvre. Moi, je fais le pari, je me dis, je vais parler de mon pays. Je suis inquiet par ça. Cette inquiétude, je la transporte dans le livre. C'est un peu comme une expérience chimique. Si ça nous arrive, on fait quoi ? Après, au-delà de ça, dans 10 ans, l'idée d'un pouvoir fort qui arrive quelque part et qui menace des gens, encore une fois, on revient au tableau de Carpaccio dont je parlais, je veux dire, c'est éternel, ce motif du pouvoir politique qui menace une famille qui doit fuir. Donc, je ne me dis pas ça doit être possible, parce que de toute façon, ça a été possible. Et ça a été corroboré. Quand le livre est sorti, moi je pouvais plus terminer, enfin je pouvais plus toucher au livre, il était imprimé, quand il y a eu le résultat des législatives par exemple. Donc je me suis pas trop planté, finalement. Finalement on voit que ce que je dénonce dans le livre est corroboré par les faits. Donc, bien sûr, on peut dire la réalité est plus forte que la fiction, mais de toute façon, comme la fiction est en miroir avec la réalité, ça revient au même. J'espère avoir répondu à votre question.
Une toute dernière question dans le public.
Après, non, si, je vais juste préciser une chose. Sur le côté, la seule j'allais dire, limite que je me pose, c'est-à-dire que ce que je raconte, j'ai besoin de l'avoir expérimenté. Le truc, ça ne va pas être possible. Je me le dis, par exemple, je ne pourrais pas écrire, je ne trouverais pas possible d'écrire sur quelque chose que je n'aurais pas vu. Un endroit, par exemple, écrire sur le mont Athos sans y être allé, plusieurs fois sans bien connaître, je ne le ferais pas. Tout ce que je raconte est, encore une fois, je vais citer Salman Rushdie, on peut écrire sur n'importe quoi à condition de le faire sérieusement. Sérieusement, c'est-à-dire d'avoir observé, de le faire honnêtement. Voilà. Donc, après, je trouve que c'est tout à fait possible ce que je raconte, c'est-à-dire un glissement. Voilà. Mais j'espère qu'on n'y arrivera pas.
Oui, je vous écoute quotidiennement à la radio, sur France Culture, tous les jours depuis des années. Et les émissions que vous avez produites sur tous les auteurs français et étrangers. Et on parlait de transmission, alors là, c'est...
On parlait de quoi,
pardon ? De transmission. Oui. Et là, vraiment, quotidiennement, j'ai apprécié et j'ai appris beaucoup de choses par la radio. La radio, c'est quelque chose de très important. On peut faire n'importe quoi, écouter et apprendre énormément de choses. Mmh. Voilà. Et je vous remercie pour ces émissions de qualité.
Bah, merci beaucoup. Bah, elle est terminée hein, maintenant, comme oui. Vous savez. Voilà. Mais oui, ça a été ce que j'ai aimé dans cette émission, et je pense que Baptiste partagera ça, parce que en fait, quand on parle de littérature, encore une fois, vous voyez Jonathan Coe qui était à Brive hein, d'ailleurs, c'est-à-dire que à travers un livre, souvent les écrivains, souvent, hein, ont des choses beaucoup plus intéressantes à dire sur le monde. D'ailleurs, je parle pas de moi là, mais justement, je parlais de Jonathan Coe, c'est-à-dire qu'avec lui, avec un roman. On comprend mieux, par exemple, ce qu'a été le Brexit, mais intérieurement. C'est-à-dire le Brexit jusqu'au divorce. Le Brexit comme cause de divorce dans les familles. Mais on comprend mieux, par exemple, dans son dernier livre, ce que c'est que la mentalité anglaise, l'histoire, parce qu'un roman, parce que la littérature embrasse le monde, et qu'un écrivain est quelqu'un qui observe le monde. Qui, évidemment, comme il nous le transmet, et c'est encore plus... On a l'impression de le comprendre, justement, de l'intérieur, par les personnages. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, avec cette émission... de pouvoir avoir que ce soit des gens comme Don DeLillo, comme Bret Easton Ellis, comme Orhan Pamuk, comme Jonathan Coe, comme tant d'écrivains qui nous font comprendre mieux le monde et qui nous donnent à penser et à comprendre. Et ça, pour moi, c'est une dimension... Alors ça, c'est pareil, c'est une dimension qui est peut-être assez, par rapport à ce que tu disais, Baptiste, sur cette tradition qu'on perd. Moi, je pense, je tiens à le penser, qu'aussi un livre... Il y a le plaisir et aussi ça permet de comprendre. C'est un instrument de compréhension. Et ce n'est pas pour ça que ça sera désagréable à lire, justement. C'est un instrument de compréhension du monde. Et moi, j'aime aussi les livres. C'est ce que j'ai aimé comme lecteur. Des livres où j'apprends des choses. Mais on ne m'étale pas, on ne m'envoie pas sa culture à travers la figure. Non, non. On apprend des choses délicatement, justement, par le et profondément par les personnages.
Trouver refuge, c'est donc le titre de votre roman. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir entre les mains, ça fait plaisir. Christophe, vous allez encore le dédicacer cet après-midi. Et allez, hop, on radote encore. N'hésitez pas à l'offrir, en particulier à un jeune public. Vraiment, j'insiste. Je l'ai fait à titre personnel, j'ai déjà offert. Et voilà pourquoi
merci, Baptiste.
Je tiens ce message. Merci beaucoup, en tout cas, Christophe.
D'avoir et de ta transmission aussi.
Voilà. Passez une très bonne fin de journée.
Merci à vous.
À bientôt.
Je vais juste, si vous voulez, parce qu'on est là, si vous avez le livre, je vais le signer ici. Ce sera plus simple parce qu'en fait, je vais retourner au stand des libraires, mais je pars cet après-midi. Donc, puisque vous avez eu la gentillesse de venir jusqu'ici, je vais vous signer ici si vous l'avez. Et puis, très vite, je vais aller sur le stand de la librairie. Merci à vous et à bientôt et merci à Baptiste.